France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions politiques. Le voile a commencé à se déchirer avec l'interview du Premier ministre au Parisien. Que compte faire Sébastien Lecornu qui se dit lui-même le plus faible chef de gouvernement de la Ve République ? Eh bien, des compromis au Parlement, explique-t-il, en tendant la main à tous les parlementaires, en particulier les socialistes. Hors de question de préparer un budget d'austérité et de régression, affirme encore Sébastien Lecornu, tout en disant non à la taxe Zuckmann comme à la suspension de la réforme des retraites. La gauche qui voit des portes se refermer risque d'en claquer une à son tour. La menace de censure est encore montée d'un cran à gauche, donc comme au Rassemblement national. Et la tension ne touche pas que le personnel politique. Voici les partenaires sociaux en ébullition. Le MEDEF annonce un énorme meeting patronal, tandis que les syndicats appellent à une deuxième journée de mobilisation. Ce sera jeudi prochain. Une nouvelle version de la lutte des classes. Quel impact attendre de ce rapport de force sur les choix budgétaires du troisième Premier ministre depuis la dissolution ? Nous en parlons ensemble ce dimanche avec la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, et dans Questions politiques. C'est en direct sur France Inter, sur France Info, la télé, le canal 16, et en partenariat avec le journal Le Monde. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
France Inter. Questions politiques. Alexandra Ben Saïd.
Bonjour et bienvenue Sophie Binet.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à mes côtés pour vous interviewer. Je les salue. Brigitte Boucher de France Télévisions. Bonjour Brigitte.
Bonjour Alexandra. Bonjour Sophie Binet.
Grâce à vos questions, nous allons en apprendre plus tout à l'heure sur la militante Sophie Binet, militante depuis l'adolescence.
Oui, on essaiera de comprendre pourquoi ces trois lettres vous accompagnent. Ces trois lettres, ce sont C, P, E. Et ce que vous cachez aussi derrière votre feutre gris ou vert que vous arborez lors des manifestations.
Pas de calvitie jusque-là, ça va.
Et Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et tous.
Avec vous tout à l'heure, on mettra en lumière une des grandes questions qui occuperont sans doute le débat pendant la présidentielle. Et aujourd'hui,
qui touche très au cœur de la CGT, la réindustrialisation du pays est-elle ou non en bonne voie ?
Sophie Binet, commençons, si vous le voulez bien, par évoquer les premiers arbitrages budgétaires. Vous avez découvert, comme nous j'imagine, vendredi soir, ces choix de Sébastien Lecornu sur le budget, une copie à laquelle vous mettriez quelle note ?
1 sur 20, ça, l'élève Lecornu n'a toujours pas décollé. Le problème, c'est que dans cette interview, les seules choses qui sont claires, c'est les portes qu'il ferme. Il donne l'impression de minimiser totalement l'ampleur de la crise démocratique et sociale qui traverse le pays. Et on a le sentiment que c'est toujours Emmanuel Macron et le patronat qui tirent les ficelles.
Alors dans cette interview, il y a quand même des choses peut-être qui sonnent plus doucement à vos oreilles. Hors de question de préparer un budget d'austérité et de régression sociale, dit le Premier ministre. Il y aura 6 milliards de plus pour les retraites, 5 milliards de plus pour la santé. On a le sentiment que ça ne ressemble pas à un gel. Est-ce que ça ne vous rassure pas ?
Alors sur la santé, on est exactement dans l'épure qui était préparée par M. Bayrou, puisque ça reviendrait à augmenter autour de 1,8% le budget de la santé, alors que les dépenses augmentent naturellement de 3 à 4% du fait du vieillissement de la population et de l'augmentation du besoin de soins. Notre chiffrage, c'est qu'il faut au moins 7% d'augmentation pour répondre à la grave crise traversée par les hôpitaux et aux besoins de soins croissants dans la société. Donc 1,8% d'augmentation, en fait, en euros réels, ça serait une baisse, ça ne permet pas de couvrir l'inflation et l'inflation de demande liée au vieillissement de la population.
Et 6 milliards sur les retraites ?
Alors, sur les retraites, il faut qu'ils nous donnent des précisions.
Ça ressemble pas à l'année blanche.
Ça peut vouloir dire qu'il recule sur la désindexation des pensions. Donc c'est le résultat du rapport de force, mais il faut en avoir la confirmation. Pour le reste, le problème de ce budget, c'est qu'on reste complètement dans l'épure de François Bayrou. Et nous savions en fait que dès le début, les ministres avaient préparé une marge de négociation. Ils avaient commencé avec une copie très violente et ils avaient préparé des marges. Et donc là, on est exactement là-dedans. Ils avaient préparé, et c'était prévu qu'il lâche sur les deux jours fériés. Ils savaient très bien que sur les retraités, ça ne passerait pas. pas. Le problème, c'est que tout le reste demeure, à savoir le doublement des franchises médicales, il ne nous en dit rien. L'année blanche sur le reste, c'est-à-dire sur les prestations sociales, le salaire des fonctionnaires, le budget des ministères, il n'en dit rien. Sur l'assurance chômage, il ne ferme pas la porte. Sur la suppression des 3000 postes de fonctionnaires, il ne nous dit pas qu'il y renonce. Donc, toutes ces régressions sont sur la table, raison pour laquelle il faut se mobiliser le 2 octobre prochain.
Alors, sur les marges de manœuvre, il dit non à la taxe Zucman, il dit non, Sébastien Lecornu, à un retour de l'ISF, mais il entend, souligne-t-il, la demande de justice fiscale des Français. Est-ce que vous, à la CGT, vous seriez ouverte à un autre mécanisme de taxation des hauts patrimoines que cette fameuse taxe Zucman ?
On n'a pas de totem. Ce qu'on veut, c'est un mécanisme qui taxe vraiment les plus riches. Et le problème, c'est que ça fait des années qu'on nous balade avec des vraies fausses taxations qui, au final, ne rapportent rien parce que c'est fait pour. L'intérêt de la taxe Zucman, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui passe à travers et que ça tape sur le patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qu'il y a de plus inégalitaire. C'est ce dont on hérite sans avoir rien mérité. C'est là qu'il faut taxer. C'est sur les transmissions qu'il faut aussi agir. Sur, par exemple, le pacte Dutreil qui permet à tous les milliardaires de transmettre leur fortune sans payer d'impôts. Il faut agir sur ces leviers-là.
Sur les retraites, là encore, Sébastien Lecornu dit non à la suspension, mais on comprend qu'il y a du grain à moudre. On est en train de parler des marges de manœuvre sur la pénibilité, sur les femmes. Pour la CGT, si on ne dit pas de suspension, c'est un casus belli ?
Bah là, il repart exactement de la copie de François Bayrou. Il se comporte comme son clone, d'ailleurs. Hein. C'est le clone de François Bayrou, là, dans ses déclarations, puisque c'est exactement ce que le Premier ministre avait proposé en juillet. Et donc, clairement, le compte n'y est pas. Ce qu'il faut, c'est abroger cette réforme qui ne passe pas, qui fait des ravages. Et par ailleurs, dans les potentielles conclusions du conclave, il y avait aussi des régressions violentes, puisqu'il y avait une remise en cause du dispositif carrière longue. Il y avait une désindexation partielle de la pension des retraités. Il ne dit rien non plus. Donc, on est très inquiets. Et ce qu'il faut, c'est abroger cette réforme des retraites qui est à l'origine de la crise démocratique dans laquelle on est aujourd'hui.
On entend que vous n'êtes pas satisfaite. Vous appelez avec l'intersyndicale à une nouvelle mobilisation. La dernière, le 18 septembre, vous aviez réuni 500 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, plus d'un million selon le décompte syndical. Vous pensez que le 2 octobre, c'est jeudi prochain, vous allez faire mieux ?
Ce qui est sûr, c'est que la colère sociale n'est plus à démontrer. On est dans une rentrée sociale totalement inédite avec bientôt 3 journées de mobilisation, le 10, le 18 septembre et le 2 octobre, une unité intersyndicale totale. Et donc, il faut bien sûr que le 2 octobre soit le plus fort possible. J'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent à faire grève et à manifester, notamment toutes celles et ceux qui sont d'accord avec nous, mais qui n'ont pas manifesté le 18. Là, faut vraiment y être le 2 octobre. L'ensemble des syndicats appellent. Il y aura des manifestations sur tout le territoire, des grèves dans toutes les entreprises. Si on veut être entendu, si on veut mettre fin aux petits arrangements entre amis d'en haut, où on décide à notre place de nos vies, de notre avenir, il faut se mobiliser, ce d'autant que nous sommes en position de force, comme le confirme la fébrilité du patronat.
Vous avez l'impression que le rapport de force, il est en train de se durcir, là ?
On a surtout l'impression que le rapport de force est en train de basculer de notre côté, puisque c'est le Premier ministre lui-même qui nous a dit 3 fois, quand on l'a vu la semaine dernière à Matignon, qu'il était le Premier ministre, un des Premiers ministres les plus faibles de la Ve République, et puis que le patronat en est réduit à nous parler d'organiser des meetings et des manifestations, alors que d'habitude, il tire les ficelles dans l'ombre. Donc ça montre que nous sommes en position de force et qu'enfin, on parle d'inverser cette inégale répartition des richesses, le fait que systématiquement, que ce soit les travailleurs et les travailleuses qui soient sommés de passer à la caisse. C'est ça dont nous ne voulons plus entendre parler.
Les patrons du MEDEF qui appellent à cet énorme meeting patronal. Dans l'invitation, il y a cette phrase à la fin. Le 13 octobre, c'est la date du meeting, soyons fiers d'être les vrais insoumis, ceux qui ne se résignent pas. Qu'est-ce qui se joue là, Sophie Binet ? Est-ce que c'est salariés en lutte contre chefs d'entreprise en résistance ou alors est-ce que c'est une peur de LFI avec cette référence aux insoumis ?
Ça, je ne suis pas dans la tête de Patrick Martin.
Mais vous l'avez noté, la phrase ? Nous ne sommes, oui. Soyons fiers d'être les vrais insoumis ?
Tout à fait. Et je trouve ça assez très particulier. Ça sonne comme une forme de trumpisation du patronat. Moi, ce que je note, c'est que qu'ils sont surtout insoumis à l'intérêt général, enfin du moins les grands patrons, et qu'on est dans une situation de totale indécence avec des grands patrons qui défendent leurs privilèges et qui n'ont honte de rien et qui n'ont pas honte de ne pas participer à la bonne marche du pays. Je rappelle que les entreprises du CAC 40, elles payent 19% des impôts quand elles réalisent 60% des profits. Elles distribuent plus de dividendes qu'elles ne payent d'impôts. Faut arrêter de se moquer du monde.
On va passer au détail des dossiers, si vous voulez bien, Sophie Binet. D'abord, le dossier des retraites et une question de Françoise Fressoze.
Le conclave sur les retraites, auquel vous n'aviez pas participé, avait avancé sur un certain nombre de données, et puis ça a capoté sur la pénibilité. Si d'aventure, le Premier ministre parvient à convaincre le MEDEF de faire une grosse mesure pénibilité, est-ce que vous reconsidériez la réforme des retraites, ou vous dites non, de toute façon, on la prend pas?
Le problème, c'est de basculer l'âge de départ en retraite à 64 ans. Le recul, il est là, parce que s'il y a des mesures sur la pénibilité, ça ne ferait que maintenir les 62 ans pour certains salariés.
Mais ça tiendrait compte de ceux qui sont dans des métiers les plus pénibles.
Eh bien oui, mais ça serait un recul pour eux, parce que aujourd'hui, oui, elles et eux peuvent partir à 60 ans. Et là, si la réforme continue à s'appliquer, ça décalerait de 2 ans quand même leur
Donc
départ
pour vous,
en retraite.
C'est inaudible.
Ah bah, c'est pas du tout à la hauteur de la problématique. Et par ailleurs, ce qui est sur la table en matière de pénibilité, ce qui était sur la table à la fin du conclave, c'était un départ anticipé pour quelques dizaines de milliers de salariés. C'est rien du tout. Je rappelle que c'est 40% des salariés aujourd'hui en France qui sont sur un métier avec un critère de pénibilité. Donc c'était beaucoup trop homéopathique comme mesure.
Sur les retraites, vous parlez d'abrogation de la réforme de ces 64 ans. L'intersyndicale n'est pas sur ce mot d'abrogation. Vous parlez d'une suspension.
L'intersyndicale, elle est sur l'abandon des 64 ans. C'est ce qui nous rassemble. Après, sur les modalités, on peut discuter. Et de toutes les manières, ce qui est clair, c'est que cette réforme doit être abrogée. Et je le dis, c'est très simple, l'abrogation, ça ne coûte pas très cher. Ça coûterait 3 milliards d'euros en 2026. Ces 3 milliards, la CGT a mis de longue date des propositions sur la table. Il suffirait de soumettre à cotisation l'intéressement et la participation pour les couvrir. Ça créerait aussi des droits supplémentaires pour les salariés. Donc c'est tout à fait atteignable.
Pourquoi avec une hausse des cotisations, on vous entend bien, avec une hausse des cotisations dans un pays qui dit qu'il est déjà très soumis au prélèvement obligatoire.
En soumettant à cotisation l'intéressement et la participation, c'est des recettes immédiates, des droits pour les salariés quand ils partiront à la retraite. Donc c'est pour ça qu'on est d'accord pour le faire, on est responsable. Et la question que je pose, c'est pourquoi un tel acharnement à imposer cette réforme contre l'avis des députés, contre l'avis des syndicats, contre l'avis de la rue, sachant que c'est à cause de cela que notre pays est dans une telle situation démocratique. On frôle la crise de
régime. Excusez-moi, mais est-ce que c'est pas vous aussi qui focalisez beaucoup? Parce que quand je regarde les revendications, je suis pas sûre que l'abrogation de la réforme soit en tête des revendications. Il y a beaucoup d'attentes sur le pouvoir d'achat, mais je vois pas, est-ce que vous en faites pas, vous, hein, une sorte de totem pour tout bloquer, en fait?
Non, pas du tout. C'est les salariés qui, sur le terrain, des centaines de milliers de salariés qui vivent ce recul de façon très concrète, puisque la réforme, elle est en train de s'appliquer et que les seniors sont licenciés par centaines de milliers actuellement à 55, 60 ans, 62 ans et qu'aujourd'hui, on leur dit qu'il faudrait qu'ils travaillent à 64 ans, ce qui est totalement impossible. Et effectivement, ça n'est pas la seule des revendications. Le problème numéro un aujourd'hui, c'est la question
des autres.
Le problème numéro un, c'est la question des salaires, parce que les salaires n'ont pas retrouvé leur niveau de 2020. Et là-dessus, pareil, nous n'avons aucune réponse, ni du patronat, ni du gouvernement, à part de nous dire qu'il faudrait baisser les cotisations pour augmenter les salaires nets, c'est-à-dire nous reprendre d'une main ce que l'on nous donnerait de l'autre.
Sophie Binet, on vous a entendu, vous dites l'intersyndicale s'entend sur l'abandon de la réforme des retraites. Vous êtes sur l'abrogation, Marie-Lise Léon, elle est sur la suspension. Est-ce que vous ne pensez pas que s'il y a, comme le disait Françoise Fressoze, des avancées sur la pénibilité, s'il y a des avancées sur les carrières des femmes, est-ce que vous ne pensez pas que la CFDT va toper et que le front syndical va se fissurer?
Il faut en parler avec la CFDT, mais l'échange a eu de façon très claire quand on a rencontré M. Lecornu la semaine dernière, et la CFDT a dit à M. Lecornu qu'après l'heure, c'était plus l'heure, et que là, l'objectif, c'était l'abandon des 64 ans de façon très claire. Donc l'intersyndicale est solide et unie, comme depuis 2 ans et demi, sur l'abandon de cette réforme.
Alors vous voulez l'abrogation de cette réforme des retraites. Si effectivement, elle est suspendue, cette réforme, ça veut dire qu'il n'y aura pas de majoration de retraite minimale à 100 euros par mois. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'assurance vieillesse pour les aidants. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de surcote de pension pour les mères de famille dès 63 ans. Ça veut dire que tout ça, on l'oublie. C'est pas dommage ?
Le minimum de pension, c'est prévu dans la loi depuis 2003 et c'est pas appliqué. Donc, il n'y avait pas besoin de cette réforme pour le prévoir. Ce qui est sûr, c'est que un blocage immédiat de la réforme, ça permet de bloquer la grave régression, la régression centrale qui est de nous voler 2 ans de vie. C'est ça le point central. Et donc, pour nous, c'est une étape vers l'abrogation et il faut que le Premier ministre l'annonce immédiatement.
Encore une question sur ces retraites. Vous dites abrogation de la réforme et donc des 64 64 ans. Est-ce que pour vous, si le gouvernement lâchait à 63 ans, ça serait une victoire? Vous voulez aller jusqu'où en réalité? 60, 62, 63?
Bah, nous, évidemment, nous pensons qu'il faut abroger cette réforme et ensuite la CGT porte la retraite à 60 ans comme une large majorité de salariés qui savent très bien que on ne peut pas travailler dignement après 60 ans et qu'ils se font licencier par centaines de milliers avec des boulots qui sont beaucoup trop pénibles.
Donc 63 inacceptable ou pas ?
Ben, en fait, le blocage de la réforme, c'est une première étape, ça serait une première étape pour nous vers l'abrogation, et on le prendra comme tel, bien sûr.
L'autre point de crispation, Sophie Binet, c'est la taxation des ultra-riches, la taxe Zucman, ou alors le retour de l'ISF, ou alors encore autre chose. Question de Brigitte Boucher.
Cette taxe Zucman, dont, à laquelle vous n'êtes pas forcément attachée, mais dans le principe, cette taxe au patrimoine, qu'est-ce que vous répondez au patron de Mistral, qui dit, lui, moi je ne fais pas de bénéfices, je ne fais pas de dividendes et pourtant ma société elle est valorisée 14 milliards. Il ne peut pas payer cette taxe Zucman. Qu'est-ce que vous lui répondez et est-ce que le risque c'est pas que Apple rachète Mistral ?
Eh bien justement, les initiateurs de cette taxe ont trouvé des solutions pour ce type de problème avec la possibilité que le fait de s'acquitter de cette taxe se transforme en prise de participation avec l'État qui pourrait rentrer au capital. L'intérêt, c'est que ça permet d'avoir un actionnaire de long terme, de stabilité et d'avoir un État qui joue son rôle sur l'économie.
Et vous croyez que l'État pourra investir, renflouer cette boîte comme Mistral AI alors que des investisseurs...
Là, il ne s'agit pas d'investir, il s'agit de bénéficier d'actions gratuites en échange de ce qu'il devrait payer comme fiscalité.
Oui,
donc ça ne coûterait rien à l'État.
Sauf que ce sera nationalisé et qu'après, l'État n'aura pas assez de moyens pour investir dans cette société.
2%, on est loin de la nationalisation. Hein. Il faudrait beaucoup d'années pour nationaliser. Ça permet justement de solidifier nos entreprises stratégiques. Je pense que ça serait une opération intéressante.
Françoise Fressoz.
On est quand même dans un univers mondialisé. L'Italie a des dispositions fiscales pour attirer tous ceux qui font de la transmission d'entreprise. Il y a des paradis fiscaux en Europe. Comment est-ce que vous arrivez à raisonner sans tenir compte de cet environnement qu'on peut changer, qu'on peut rêver de changer, mais qui existe ? Quand François Hollande avait voulu faire la taxe à 75%, elle n'est pas passée, c'est les classes moyennes qui ont payé. Comment est-ce qu'on peut encore dire on va faire un gros impôt sur le patrimoine, y compris l'outil de travail, dans un seul pays? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre.
Bah, d'abord,
et comment vous pouvez la défendre?
En fait, personne ne dit qu'on le fait dans un seul pays, mais il faut bien commencer par un pays pour pouvoir l'étendre après. Et la France, ça n'est pas n'importe quel pays.
Il y a eu un mouvement de tentative de taxation des très riches à l'échelle de la planète, ça a été interrompu notamment par l'offensive Trump.
Oui.
Donc ça, c'est la réalité aussi.
Oui.
Donc comment vous faites pour essayer de faire de la production, de la réindustrialisation et, au fond, de la justice? Est-ce qu'il ne faut pas rentrer dans des mesures plus techniques et éviter les grands slogans qui ne marchent pas de fait?
Oui, mais là, je crois qu'on n'est pas sur des grands slogans. Moi, ce que je note, c'est que cette question de la justice fiscale, elle se pose au plan mondial. Par exemple, actuellement, il y a beaucoup de débats en Allemagne aussi sur la
Absolument,
justice fiscale.
Mais pour le moment, rien ne s'enclenche et... parce qu'il y a du blocage aussi, notamment...
Ah bah de ces mêmes ultra riches qui empêchent de passer à la caisse. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce débat il se pose dans le monde entier? Parce que les inégalités entre celles et ceux qui vivent dans leur rente et celles et ceux qui vivent de leur travail n'ont jamais été aussi élevées. C'est ça le problème qui est posé au plan mondial.
Bien sûr.
Et donc il
Mais
faut bien
entre
commencer quelque part.
L'envie de justice et la réalisation, est-ce qu'il n'y a pas des mesures plus techniques à trouver qui soient un peu efficaces?
Et donc lesquelles alors?
Plutôt que des choses.
Lesquelles?
Et ben par exemple, essayer de lutter contre les holdings, l'optimisation fiscale,
oui.
Aller le plus possible dans le détail et le concret, mais sans essayer de faire fuir les gens.
Il faut tout faire. Et évidemment, personne ne veut faire fuir les gens. Vous savez qu'il y a une étude qui vient des services de Matignon qui prouve que les différentes mesures de fiscalisation des plus hauts revenus ont eu un impact extrêmement faible sur leur mobilité, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire quand Emmanuel Macron a supprimé l'ISF, il y a très peu de riches qui sont revenus en France. Et de l'autre côté, quand on a augmenté la taxation des plus riches, il y en a très 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 peu qui sont partis. Donc ça, c'est un compte qui a été démonté par la réalité. Et ensuite, on ne peut pas... Si dans notre société démocratique, on accepte en disant, en fait, les riches, on ne peut pas les taxer
non,
parce qu'ils vont s'en aller.
Si
dans
le
ce
gouvernement
cas-là,
arrive à trouver un dispositif qui ne soit pas la taxe Zucman, qui ne soit pas le retour de l'ISF, mais qui arrive à lutter sur certaines mesures d'optimisation fiscale, notamment sur les holdings, est-ce que vous dites OK?
Nous, le juge de paix, ça sera le rendement. On en a assez d'avoir...
C'est quoi le rendement, alors, pour vous?
Eh ben, le rendement de la taxe Zucman, c'est 20 milliards.
Oui, alors c'est ça la barre pour vous, c'est 20 milliards.
Oui, c'est que, en fait...
Le patrimoine productif. Bah,
par exemple, oui, bien sûr, mais pourquoi est-ce que je dis 20 milliards? En fait, je devrais dire 40 milliards. Parce que, depuis qu'Emmanuel Macron est élu, les plus riches et les plus grandes entreprises ont vu leurs impôts baisser de 40 à 50 milliards chaque année. Il est là, le problème. C'est eux qui ont creusé la dette.
Sauf que l'impôt sur les sociétés en France est nettement supérieur à celui de la moyenne européenne et que c'est pour ça aussi qu'ils demandent des allègements parce qu'ils ne sont pas compétitifs.
Oui.
Mais c'est une réalité aussi.
Mais oui, mais parce que c'est la fuite en avant au plan mondial qui est organisé sur on fait baisser les impôts en France et derrière on s'en sert comme d'argument pour aller les faire baisser ailleurs. Donc à un moment, quand est-ce qu'on arrête avec ça et qu'on envoie un signal fort? Et donc oui, il faut une fiscalité juste en France et il faut porter ce combat au plan européen et au plan mondial et la France est très bien placée pour le faire. Il faut une vraie harmonisation fiscale en Europe parce que les paradis fiscaux, ils sont pas dans
ils
des atolls exotiques,
faire,
ils sont au cœur de l'Europe.
Et pour le moment, c'est complètement interrompu parce qu'il y a cette grosse vague libérale aussi, cette compétition Chine-États-Unis, qui est la réalité
mais
du monde.
Mais l'Europe peut
aussi.
Agir quand même. L'Europe peut agir. Et donc, quand est-ce qu'on met fin aux paradis fiscaux qui sont en Europe? Le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, par exemple, dans lesquels vont se réfugier les holdings de nos multinationales. Là, on peut peut-être agir là-dessus.
Est-ce qu'on va réussir à avoir un débat serein sur cette taxe et les hauts patrimoines? Là, cette semaine, le député ex-LFI, François Ruffin, dit qu'il veut priver de droits civiques ceux qui fuient l'impôt. L'économiste Thomas Piketty dit à Bloomberg, si vous ne payez pas vos avoirs peuvent être gelés, vous pouvez être arrêté à l'aéroport. Est-ce que tout ça, ça n'était pas un peu contre-productif? Est-ce que là, ils ne sont pas en train, ces grandes voix, d'enflammer le débat?
C'est l'inverse, le problème. Ce n'est pas eux qui enflamment le débat, c'est ceux qui refusent de payer l'impôt et qui n'ont pas honte de dire qu'alors qu'ils ont plus... Parce que je rappelle de quoi on parle. La taxe Zucman, c'est les 1800 personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Ça sert à quoi d'avoir plus de 100 millions d'euros de patrimoine? Et c'est à cause des cadeaux fiscaux qu'on leur a donnés depuis 8 ans que nos services publics sont à l'os, que nos hôpitaux ne peuvent plus fonctionner, qu'il manque des milliers d'enseignants dans nos écoles. Et ces gens là nous disent qu'ils ne peuvent pas payer alors que ce sont les mêmes qui, il y a quelques mois, nous expliquaient, un, qu'il fallait du sérieux budgétaire et qu'il fallait arrêter la dette alors que c'est eux qui en sont responsables, et deux, qu'il fallait faire payer les privilégiés, à savoir les retraités. Mais ils n'ont quand même honte de rien.
Mais quand même, Sophie Binet, pour bien comprendre, on est à plus de 115% de dette, on paie des intérêts, des charges de la dette de plus en plus élevées, ça empêche d'avoir de bonnes politiques publiques. Vous, là, vous êtes dans l'idée qu'il faut réduire cette dette, réduire le déficit, revenir à 3% ou pas du tout? Et est-ce que vous voulez le faire essentiellement par l'impôt, faire payer les riches, ou est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il va falloir couper des dépenses? Et pas seulement des dépenses sur les entreprises.
Il faut avoir une trajectoire de réduction de la dette, mais moins violente que celle qui était portée par François Bayrou, parce que elle serait très récessive, ça tous les économistes l'ont dit. Il faut que cette trajectoire elle s'appuie d'abord sur de nouvelles recettes, parce que toutes les études démontrent que la dette elle a augmenté à cause d'un recul des recettes, pas à cause d'une augmentation des dépenses. Et puis il faut avoir une vraie politique de relance, comme par exemple l'a eu l'Espagne, qui
donc
a fait reculer. L'Espagne a augmenté le salaire minimum de 80%, a supprimé les contrats précaire et en train de réduire le temps de travail des salariés sans réduction de leur salaire.
Et ça, on peut
salaire.
Se le permettre.
Eh ben, regardez la situation de l'Espagne.
La
dette a été considérablement réduite et l'Espagne a une croissance bien plus importante que celle de la France. Aujourd'hui, ce qui nous mène dans le mur, c'est cette politique de l'offre qui est un fiasco complet d'un point de vue économique, social et démocratique. On nous a argumenter à chaque fois qu'il fallait baisser les impôts des plus riches et des plus grandes entreprises pour réindustrialiser le pays. Le résultat, c'est quoi? On a des usines qui ferment tous les jours. Il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi.
On parle des politiques publiques. Parlons de politique tout court, si vous voulez bien, avec une question de Françoise Fressoz.
Oui, c'est sur le rôle que vous assignez dans l'intersyndicale. Vous étiez parti sur l'intersyndicale pour dire on veut plus du plan Bayrou. Le plan Bayrou, d'après ce qu'on comprend, il est évacué. Quel est votre objectif essentiel? C'est quoi votre principale revendication? Qu'est-ce que vous voulez obtenir?
Un, le plan Bayrou n'est pas évacué, puisqu'il ne nous a pas dit qu'il renonçait à la réforme de l'assurance chômage, qu'il renonçait au doublement des franchises médicales, qu'il renonçait à l'année blanche, à la suppression de 3000 postes de fonctionnaires.
Donc, on fait table rase.
Ça, déjà, c'est la première chose. C'est nous ne voulons pas de régression pour le monde du travail. Nous avons déjà payé depuis 8 ans. Nos salaires n'ont toujours pas retrouvé ceux de 2020. Nous avons eu une réforme du Code du travail, 4 réformes de l'assurance chômage, une réforme des retraites. Ça suffit.
D'accord.
Ensuite, la deuxième chose, c'est que nous voulons l'abandon dès 64 ans de cette réforme des retraites. Nous voulons des moyens pour nos services publics, nos hôpitaux, nos écoles, nos universités.
Donc ça veut dire que vous êtes contre la baisse des dépenses publiques ?
Ah oui, tout à fait. Nos services publics, nos écoles, nos universités, nos hôpitaux ont besoin
vous
de plus d'argent.
Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, notre modèle social nous coûte trop cher, qu'on n'a plus les moyens de ce modèle ?
Non, on a les moyens si on va les chercher. Le problème, c'est qu'on ne va pas les chercher là où ils sont. Et aujourd'hui, ce qui mène le pays dans le mur, c'est la situation catastrophique de nos services publics. C'est très inquiétant. La situation de nos universités, de nos organismes de recherche, par exemple, c'est grave. Pourquoi est-ce que la Chine et l'Inde sont en train de nous passer devant d'un point de vue industriel ? C'est parce que, en matière de recherche, de R&D, etc., ils sont beaucoup plus forts que nous.
Sophie Binet, en tant que représentante des salariés, d'une organisation de salariés, vous vous dites, si on parle de politique, qu'est-ce qui vaut mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on continue avec des gouvernements qui continuent à tomber, des dissolutions. Est-ce qu'il vaut mieux que Emmanuel Macron parte ? C'est ce que disent certains. Que voulez-vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui serait bon pour les salariés en politique, en stratégie ?
Eh ben, d'avoir un gouvernement qui réponde aux exigences sociales, ça fait 8 ans.
Mais il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc en fait, c'est pas possible.
Mais pourquoi ça serait pas possible ?
Il n'y a pas de majorité pour ce que vous dites. Même les projets que vous défendez, il n'y a pas de majorité pour ça.
En fait, il y a une large majorité de députés qui a voté l'abrogation de la réforme des retraites le 5 juin dernier. Il y a une majorité de députés qui a voté la taxe Zucman en mai dernier. Il y a une majorité de députés qui, à l'automne dernier, dans le débat budgétaire, avait revu considérablement la copie.
Donc on mélange tout, la gauche, l'extrême droite, pour faire tomber Macron, c'est ça ?
Nous, notre objectif, c'est pas de faire tomber Emmanuel Macron. On n'a rien contre lui. On a d'ailleurs besoin d'un président qui préside au niveau international au vu de la crise géopolitique dans laquelle on est.
Et vous trouvez qu'il préside bien, là, au niveau international ?
Sur la reconnaissance de la Palestine, c'était très important de le faire. Par contre, il faut aller jusqu'au bout. Ça peut pas être seulement des paroles. Il faut des sanctions.
Sophie
Binet, il faut agir.
Donc vous dites, en fait, on peut avoir une majorité au Parlement, droite, gauche, extrême droite, pardon, extrême droite, extrême gauche, gauche, pour faire chuter la réforme des retraites. Ça vous dérange pas?
En fait, nous, ce qui compte, c'est que les exigences sociales des salariés soient entendues. Pourquoi est-ce que l'extrême droite, à ce stade, avait voté sur l'abrogation de la réforme des retraites? Parce qu'il y a un rapport de force et que les salariés le veulent. Mais au fond d'eux-mêmes, on le sait très bien, ils le disent, comme ils sont de plus en plus proches des grands patrons et des plus riches, c'est quand même pas leur tasse de thé. Donc c'est le rapport de force sociale qui fait qu'il y a une majorité pour abroger cette réforme. Il n'y aura pas de stabilité sans réponse aux exigences sociales et sans abrogation de la réforme des retraites.
Sophie Binet, est-ce que vous n'allez
attendez,
pas
vous êtes en train
le
de
Rassemblement
parler.
National au pouvoir si le gouvernement tombe et si cette assemblée est dissoute?
Mais nous, on veut pas la chute de ce gouvernement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait tout ça maintenant, pour le forcer à revoir sa copie et avoir une copie qui réponde aux exigences sociales des travailleurs et des travailleuses. Il y a 5 gouvernements qui sont tombés depuis 2 ans à cause de cette politique de passage en force d'Emmanuel Macron, notamment sur la réforme des retraites. Et à chaque fois, c'est tout changé pour ne rien changer. On en a ras-le-bol de cette nuit sans fin du macronisme avec ce disque rayé. Quand est-ce qu'ils comprendront que cette politique de l'offre, il faut en changer et répondre aux exigences sociales?
Le Rassemblement national, sa force, sa puissance aujourd'hui, sa dynamique, est-ce que ça vous effraie?
Ah oui, considérablement.
Est-ce que c'est ça qui est le risque avec cette instabilité?
C'est un énorme risque, et moi ce que je constate, c'est que alors qu'aujourd'hui nous avons réussi à centrer l'actualité sur les questions sociales, c'est le résultat de notre mobilisation, donc toutes celles et ceux qui nous écoutent, venez dans les rues le 2 octobre, on a déjà changé les choses dans la tonalité. Moi ce que j'observe, c'est que pendant ce temps-là, l'extrême droite essaye de mettre l'actualité sur des clivages identitaires, avec par exemple cette pétition sur l'immigration, avec ce qui s'est passé en Grande-Bretagne de manifestations contre l'immigration qu'ils voudraient organiser en France, et donc ça confirme ce que nous disons à la CGT, il n'y a pas de pire ennemi pour les travailleurs et les travailleuses que l'extrême droite, parce que quand on met l'actualité sur les clivages identitaires, quand on fait comme si le problème c'était les immigrés, eh bien les plus riches et les grands patrons ont la paix.
Pourtant c'est le vote ouvrier-employé, hein. Après l'abstention, le vote Rassemblement National, c'est là qu'il se dirige le plus.
Ah, malheureusement, toutes les catégories de population votent pour le Rassemblement National, c'est pour ça qu'il est aux portes du pouvoir, et moi ce que j'observe surtout actuellement, c'est des liaisons dangereuses entre une partie du patronat et l'extrême droite. C'est d'ailleurs comme ça que Donald Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis, grâce à son alliance avec l'homme le plus riche du monde, Elon Musk.
Chacun montre ses muscles, mais la dernière manifestation, elle était quand même nettement moins importante que celle pour la mobilisation des retraites de l'intersyndicale. Est-ce que vous ne craignez pas, au fond, d'avoir un langage très dur et d'avoir une mobilisation beaucoup plus faible qu'il y a au moment où vous vous battiez très fortement contre cette réforme.
Non, pas du tout. Le contexte est complètement différent aujourd'hui. Avoir 1 million de personnes dans les rues un 18 septembre, c'est inédit en termes de rentrée sociale. Moi, j'ai jamais connu une rentrée sociale où, au 2 octobre, on est à la troisième journée de grève et de manifestation.
Si la colère est si forte à la base, est-ce que vous auriez pas pu mobiliser presque davantage qu'au moment du conflit des retraites? Et est-ce que vous ne craignez pas que jeudi, au fond, il n'y ait pas tant de monde que ça,
mais...
et que ce ne soit pas un si fort moyen de pression?
J'adore les commentaires des observateurs. Mobiliser davantage que sur le conflit des retraites, le conflit des retraites, c'était un niveau de mobilisation historique dans l'histoire sociale de la France. Donc à un moment, comme on a battu tous les records, vous nous demandez d'en battre encore, mais il faut quand même être un peu objectif.
Je vous demande de rien,
sur les niveaux de mobilisation. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec cette mobilisation du 10, puis du 18 et maintenant du 2 octobre, on a réussi à déjouer tous les calculs d'Emmanuel Macron et de son gouvernement qui pensent étouffer la mobilisation en faisant sauter son Premier ministre François Bayrou. Eh bien non, il y a eu quand même une très forte mobilisation. Qui pensait qu'il n'y aurait plus de mobilisation après que les 2 jours fériés seraient supprimés? Eh bien non, il y a eu quand même une très forte mobilisation. Et donc, le piège de tout changer pour ne rien changer, maintenant les gens ont bien compris, on ne veut pas un changement de casting, on veut un changement de politique.
Question politique sur France Inter.
Sophie Binet, invitée de Questions politiques. L'événement marquant dans l'actualité de cette semaine, c'est la condamnation de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen. Je vous propose de l'écouter, c'était à la sortie de l'audience.
La haine n'a donc décidément aucune limite. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France.
Sophie Binet, ce matin dans le journal du dimanche, interview fleuve de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy qui redit qu'il se battra jusqu'à son dernier souffle pour faire reconnaître son honnêteté. Un combat qu'il mène, dit-il, pour l'État de droit. Comment réagissez-vous ?
Justement, en fait, cette déclaration d'un ancien président de la République, je la trouve extrêmement inquiétante pour notre démocratie et pour l'état de droit, qu'il se permette de remettre en cause une décision de justice qui a pourtant été travaillée de façon extrêmement approfondie, avec, comme l'a dit la présidente du tribunal, des charges d'une exceptionnelle gravité. Et donc, je suis très inquiète de cette classe politique qui donne le sentiment d'avoir un deux poids, deux mesures. Ce sont les mêmes qui ont des discours extrêmement fermes et qui nous disent qu'il faut enfermer des mineurs de moins de 16 ans ou de moins de 14 ans dès le premier délit, et qui par contre, quand il s'agit d'eux, eh bien là, il ne peut pas y avoir de condamnation et il n'y a plus d'état de droit. La justice, elle est la même pour tout le monde et c'est très important qu'elle soit indépendante.
Sophie Binet, la présidente du tribunal, avait manifesté contre Nicolas Sarkozy et lui-même avait traité les juges de petits pois sans saveur. Beaucoup s'interrogent sur la partialité de la justice. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Justement, avec cette décision, la justice, elle montre son indépendance, malgré toutes les pressions qu'elle a subies, malgré le manque de moyens énorme qui est le sien. Moi, je suis très inquiète par la situation de la justice en France face à des défis énormes, avec le narcotrafic qui n'a jamais été aussi important, avec une trumpisation de la vie politique et des hommes et des femmes politiques qui se permettent de s'attaquer frontalement à la justice. Il y a besoin de protéger nos juges, de protéger la justice,
la justice
et de dégager des moyens.
Mais la justice, elle n'est pas politisée quand on a vu le mur des cons, vous, le syndicat de la magistrature, entre syndicats, vous vous soutenez ?
Ça, d'abord, c'était il y a au moins 10 ou 15 ans et c'était un fait divers. Enfin, ça s'appelle de la liberté. C'est dans un local syndical, ce qui est affiché dans un local syndical. Et c'était il y a au moins 15 ans, je pense. Donc, je suis quand même étonnée qu'on m'en parle encore aujourd'hui. Ça fait partie de la liberté syndicale de pouvoir afficher ce qu'on veut dans son local. Voilà. Et donc, ensuite, la justice. Évidemment, les juges ont le droit, à titre individuel, d'avoir leurs opinions. Ils ont le droit d'aller voter, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de se syndiquer. Ça fait partie des libertés fondamentales. Et pour autant, dans l'exercice de leurs fonctions, il et elle, d'abord, ne décident pas seuls. Il y a quand même toute une procédure pénale qui est respectée et qui est extrêmement ambitieuse. Et donc, quand le résultat d'un jugement n'arrange pas dire qu'il y a une justice qui est partiale, c'est quand même un peu facile.
Sophie Binet, aujourd'hui, la juge qui a condamné Nicolas Sarkozy, elle est inquiétée. Elle reçoit des menaces de mort. Il y a 2 enquêtes qui sont ouvertes. Est-ce que vous-même, vous êtes inquiète de ces développements? Que faut-il faire, que faut-il dire, qui doit faire et dire pour cette juge ?
Ben, je trouve que c'est très grave et donc d'abord je tiens à leur adresser tout mon soutien aussi d'un point de vue personnel parce que de savoir qu'une juge est mise sous protection judiciaire et policière, c'est très inquiétant et donc respect aussi pour le courage et l'abnégation dont il et elle ont fait preuve. Et je pense que le problème, c'est surtout que c'est très grave pour notre démocratie. Ça donne l'image que les juges ne peuvent pas s'attaquer aux puissants et quand ils s'attaquent aux puissants, ils ont des pressions énormes. C'est pour ça que c'est très important de protéger les juges.
On voit la droite, l'extrême droite très à l'offensive, notamment sur l'idée qu'il y ait une exécution provisoire et que, avant de pouvoir avoir le jugement en appel, Nicolas Sarkozy sera incarcéré. Est-ce que vous comprenez, vous, ce point de focalisation ? Est-ce que vous comprenez cette espèce de collusion entre droite et extrême droite pour dire, au fond, il faut remettre en cause tous ces jugements ? Est-ce que vous trouvez que la gauche parle suffisamment fort sur ce sujet ? Comment vous appréhendez tout ce qui se passe depuis 3 jours en France ?
Mais je trouve, encore une fois, que c'est très inquiétant, que ça donne l'impression d'avoir des copains et des coquins qui se serrent les coudes pour défendre des pratiques qui étaient...
On n'entend pas beaucoup la gauche.
Peut-être que... Je sais pas, moi, c'est à eux qu'il faut demander, mais peut-être qu'ils s'expriment pas non plus pour ne pas politiser les choses, parce que ça pourrait être contre-productif. Je ne sais pas si...
Est-ce que là, on n'est pas en pleine politisation, justement ? Est-ce qu'on n'est pas en plein combat politique ?
Bien sûr, et c'est justement la droite et l'extrême droite qui politisent les choses, alors qu'il y a un jugement qui est fondé sur des faits d'une extrême gravité, parce que je rappelle que c'est un président de la République qui, pour se faire élire, est allé chercher de l'argent auprès d'un dictateur qui avait d'ailleurs commis un attentat grave contre des ressortissants français. Il y a eu plusieurs morts dans cette affaire. Enfin, c'est quand même d'une exception.
Il n'y a pas eu du tout d'argent libyen qui a circulé hein, sur les 12 ans d'enquête.
Vous voulez faire un rassemblement ? En avril dernier, vous avez fait un rassemblement. Après la condamnation de Marine Le Pen, le RN était monté très fort sur la tyrannie des juges. Et vous aviez appelé un rassemblement, une mobilisation, c'était le 12 avril, avec SOS Racisme et la Ligue des Droits de l'Homme pour l'État de droit. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez réitérer ?
Vous
n'y avez pas pensé, visiblement.
Non, mais en fait, on a une grosse mobilisation à préparer le 2 octobre, une actualité sociale qui est très chargée, mais évidemment, ça fait partie des possibilités, et là, si les choses continuent à se dégrader, la CGT sera bien sûr disponible pour le faire, parce que nous pensons que notre démocratie est en danger, et que c'est grave que des responsables politiques se permettent de la sorte de remettre en cause l'indépendance de la justice. C'est très inquiétant, sachant que ce sont les mêmes qui ont criminalisé l'action syndicale, qui multiplient les gardes à vue contre celles et ceux qui se mobilisent et qui, là, derrière, nous expliquent que ça serait un scandale qu'il y ait une exécution provisoire d'une peine, alors que dans 85% des cas, il y a une exécution provisoire d'une peine. Mmh. Et là, en fait, on n'est pas d'accord parce que ça concerne l'ancien président de la République. Ben non, la justice, elle est la même pour tout le monde. C'est ce que ce jugement rappelle et qui est très important. Et visiblement, ce que je constate, c'est que c'est ça qui dérange aujourd'hui dans le pays. Les privilèges ont été abolis, ça fait 300 ans maintenant.
Sophie Binet, il y a la reconnaissance de la Palestine qui a été accordée par Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU. On voit qu'il y a un accord de paix qui pourrait se dessiner. Le journal Haaretz israélien dit que le Hamas serait prêt à accepter un accord. Est-ce que vous pensez que c'est grâce à Emmanuel Macron et grâce à la reconnaissance d'un État palestinien ? Est-ce que ça a pu faire bouger les choses ?
C'est grâce à la mobilisation internationale. C'est terrible que 2 ans et demi après, il n'y ait toujours pas d'accord de paix, alors qu'il y a eu plus de 65 000 morts, des catastrophes énormes auprès des civils, un territoire qui est complètement détruit et de plus en plus d'experts qui parlent de génocide. Donc il y a une urgence absolue. Pour les organisations syndicales, c'est aussi un point important, puisque nous sommes historiquement mobilisés pour la paix, mobilisés pour le droit à l'autodétermination des peuples et donc aussi des Palestiniennes et Palestiniens. La CGT est impliquée dans la flottille pour Gaza. Nous avons un militant qui est à bord et cette flottille s'est d'ailleurs fait attaquer de façon très violente ces derniers jours. Nous demandons à avoir une protection immédiate de la France pour la flottille. Et puis la CGT a aussi lancé une grande collecte pour l'UNRWA, l'organisme de l'ONU qui vient en aide aux réfugiés, pour empêcher ce génocide qui est en cours actuellement à Gaza, sous nos yeux, et face auquel on se sent très impuissant. C'est ça qui est terrible. Et donc moi, ce que je veux dire à celles celles et ceux qui nous écoutent, c'est notre mobilisation fait changer la donne. La preuve, enfin, peut-être, il va y avoir une paix et un cessez-le-feu.
France Inter. Alexandra Ben Saïd. Question politique.
Sophie Binet, vous êtes sur France Inter, l'invitée de Questions politiques. C'est le moment du « Qui êtes-vous ?» de Brigitte Boucher. On va tenter de mieux vous connaître.
Sophie Binet, on vous entend à la tribune entonner ce « Macron, si tu continues, tu vas finir dans le noir ». C'était à Clermont-Ferrand en mars 2023. Vous êtes la première femme élue à la tête de la CGT en mars donc 2023. Vous parlez cash, vous assumez votre radicalité. Vous êtes sortie du chapeau, vous qui arborez un feutre, je l'ai dit, pour succéder à Bernard Thibault et Philippe Martinez et sa célèbre big moustache. Alors, c'est pas le même genre de beauté, mais bon, on avait dit pas le physique. Votre premier combat, on pourrait dire que c'est contre le CPE en 2006, ironie du sort. Deux ans plus tard, vous devenez CPE, alors rien à voir, hein. Vous êtes comme poursuivi par ces trois lettres, CPE donc, mais un vrai contrat. Le travail, c'est un de vos combats, ou plutôt la loi travail, puis la réforme des retraites, mais avec des horaires que vous avez et votre dévouement pour de l'UNEF au PS, en passant par la CGT. Mon petit doigt me dit que votre engagement ne va pas s'arrêter, et même à 64 ans, d'où vous vient cet engagement ?
En fait, c'est à l'âge de 15 ans, je me suis rendu compte des injustices et de la reproduction sociale. Parce que quand j'étais dans ma classe de seconde, j'étais dans un lycée mélangé et j'ai vu à la fin de la seconde un tri social. Et je me suis rendu compte que celles et ceux dont les parents n'étaient pas cadres, qui n'avaient pas les moyens d'avoir du soutien scolaire, ne continuaient pas leurs études en général. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à militer sur les questions éducatives. D'abord, je me suis mobilisée en 98 contre c'était à l'époque Claude Allègre. Pour justement qu'il y ait plus de pédagogie à l'école. On avait créé une sorte de petit syndicat lycéen, en fait, dans mon lycée. On ne savait pas ce que c'était qu'un syndicat, donc on ne s'appelait pas syndicat. Et puis ensuite, j'ai continué à l'université pour qu'il y ait une vraie pédagogie à l'université pour permettre à toutes et tous de réussir. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là, parce qu'en fait, je voulais mettre les mains dans le cambouis et savoir concrètement sur le terrain ce qu'on pouvait faire pour vraiment
permettre à toutes et tous de réussir. Et c'est cet engagement syndical. La retraite à 60 ans, très peu pour vous, ou vous l'attendez avec impatience ?
Ben, je fais une différence entre un métier et un engagement. Moi, mon engagement n'est pas mon métier. Et donc, c'est mon engagement, il me poursuivra, je pense, jusqu'au bout. C'est parfois un peu dur pour ma famille, mais voilà.
Un engagement, un métier aussi. C'est-à-dire que ceux qui sont passionnés peuvent peut-être avoir envie de travailler longtemps.
Oui, mon travail, c'est d'être conseillère principale d'éducation en lycée professionnel. C'est toujours ma fiche de paye de l'éducation nationale que j'ai. Donc, je distingue bien les choses.
Vous étiez à la Jeunesse ouvrière chrétienne alors que vos parents étaient anticléricaux. Vous êtes croyante ? Vous allez à la messe ?
Non, pas du tout. Je ne suis pas baptisée, je ne suis pas croyante, mais j'ai commencé à militer à la Jeunesse ouvrière chrétienne parce que j'y ai trouvé des méthodes d'éducation populaire et surtout, c'était le slogan « Aide-toi, le ciel t'est droit ». Et donc, de partir de chacune et de chacun et de permettre à chacune et chacun de se mettre debout, de prendre sa vie en main et d'agir. Et donc, c'était une formidable école de l'émancipation, d'apprendre que évidemment, il faut avoir des objectifs de justice et tout ça, mais la façon dont on le fait est très important. Et donc, le faire en permettant à chacune et chacun d'agir lui-même en refusant le délégué pour pouvoir prendre sa vie en main.
Une dernière question.
Vous avez été élue chapeau l'artiste, hein, juste avant Marie-Lise Léon. Deux femmes à la tête de deux grands syndicats. Ça vous rapproche ou ça vous éloigne, confidente ou concurrente ?
Non, les logiques de concurrence, franchement, on a effectivement, il y a beaucoup de le patronat, le gouvernement essaye toujours de mettre en concurrence CGT et CFDT pour diviser le syndicalisme. Je pense qu'on a la maturité de dépasser ça et de comprendre que aujourd'hui l'enjeu c'est la situation du syndicalisme. Ce qui nous rassemble, c'est la détermination à gagner des avancées concrètes pour les salariés, pour montrer l'utilité du syndicalisme.
Mmh. En un mot, pourquoi ce chapeau, ce feutre que vous arborez dans toutes les manifestations, dans tous vos rendez-vous ?
Alors, pas dans tous. En fait, c'est juste quand il pleut. C'est une très bonne protection contre la pluie, voilà.
Uniquement ça.
Pour compléter ce portrait, Sophie Binet, on vous a donné une carte blanche. Pour cette carte blanche, vous avez choisi de parler de l'aide sociale à l'enfance. Alors, je fais un peu de mise en perspective. Plus de 384 000 mineurs et jeunes sont suivis en France par la protection de l'enfance. L'Inspection générale des affaires sociales a encore alerté ce mois-ci sur l'accompagnement insuffisant, parfois incohérent, disparate des jeunes qui sortent de l'ASE. Et plus globalement, on connaît la situation. Il n'y a pas assez d'éducateurs, il n'y a pas assez de psy, pas assez de familles d'accueil, pas assez de contrôle, pas assez de suivi des dispositifs. Est-ce qu'en 2025, la protection de l'enfance, pour vous, c'est un service public qui s'effrite ?
Oui, tout à fait. C'est une des choses qui me révolte le plus au quotidien, et pourtant il y en a beaucoup d'autres, parce que les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est notre avenir. Et donc, de savoir qu'il y a aujourd'hui des centaines de milliers d'enfants qui sont en danger, parce qu'ils sont en danger dans leur famille, et qu'on ne peut pas les protéger, parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs, pas assez de foyers. Ou alors, des centaines de milliers d'enfants qui sont aussi en danger dans leur foyer ou dans leur famille d'accueil, parce que il n'y a pas un taux d'encadrement suffisant, que les familles d'accueil ne sont pas assez formées, reconnues, accompagnées. C'est catastrophique. Et derrière, on tourne le dos à notre avenir, puisque aujourd'hui, on sait que la situation de ces enfants en danger, ce sont les premiers qu'on retrouve dans la rue, qu'on retrouve en prison, qu'on retrouve au chômage, en difficulté sociale, parce que la République ne sait pas les protéger. Ça nécessiterait assez peu de moyens, en fait. Et je suis scandalisée.
C'est ça. Il y a déjà 10 milliards hein, sur cette politique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ? Il y a plusieurs responsables. Il y a l'État, les départements, les associations. Est-ce que c'est une question d'organisation ? Vous dites que ce n'est pas vraiment une question de moyens. Que faudrait-il ?
C'est une question de moyens. C'est clairement une question de moyens, parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs, pas assez de travailleurs et travailleuses sociales, pas assez de structures d'accueil. Il faut revaloriser ces métiers. Par exemple, le fait d'être famille d'accueil, c'est une mission hyper dure et c'est un sacerdoce énorme. C'est très mal reconnu. Il y a très peu de formation. C'est très récent d'ailleurs, alors que c'est très très dur ce à quoi sont confrontées les familles d'accueil et que leur rôle est déterminant pour permettre à ces enfants de se construire, de se reconstruire. On a des enfants qui sont polytraumatisés et qui sont des grands blessés de la vie. Moi, j'ai eu dans mon métier, j'y ai été confrontée à beaucoup d'entre elles et beaucoup d'entre eux. J'ai toujours été hyper impressionnée par leur combativité, leur maturité, mais tellement choquée par le sort qu'on leur faisait. Et ce qui est terrible, c'est que moi, ça fait 10 ans que je ne suis plus au travail, puisque j'ai des responsabilités syndicales.
Vous avez un autre travail, disons.
Voilà, c'est ça. Il y a 10 ans, la situation, elle était déjà catastrophique, avec des enfants dont je m'occupais que je n'arrivais pas à faire prendre en charge. Aujourd'hui, la situation, elle s'est considérablement dégradée, avec une prostitution des mineurs et des jeunes filles qui n'a jamais été aussi importante, avec un nombre de demandes de placement qui n'a jamais été aussi important, avec jamais autant d'attentes. Il y a un rapport parlementaire qui a été réalisé il y a 6 mois avec une grande mission d'enquête, sitôt réalisé, sitôt enterré. La protection de l'enfance, ça devrait être une grande cause nationale qui nous rassemble toutes et tous. Il faut dégager des milliards supplémentaires, mais ça coûte très peu par rapport, ça s'appelle de la prévention. Derrière, aujourd'hui, cette absence de prévention, on le paye. La violence qu'il y a dans les établissements scolaires, par exemple, l'agression au couteau dont a été victime l'enseignante du Bas-Rhin la semaine dernière, le garçon qui l'a agressé avait 14 ans, c'était justement un enfant placé qui avait été victime de violences dans sa première famille d'accueil, victime de graves troubles psychiatriques et sans prise en charge à la hauteur. Donc, on le paye, ça. Et la première leçon de ce qui s'est passé, ça devrait être de s'interroger pourquoi est-ce que cet enfant, on n'a pas été capable de le protéger ?
Sophie Binet, ça sera peut-être une question dans le débat de la présidentielle. Françoise Fressoz en a une autre pour vous. C'est notre séquence France 2027. Nous parlons de la réindustrialisation du pays, Françoise.
Oui, c'est un thème cher à la CGT qui s'est toujours battue autour de l'industrie. Il y a première question un peu piégeuse, c'est ce qui se passe autour du réarmement. On a vu la Direction générale de l'armement qui demande à Renault d'essayer de faire de la production de masse de certains drones et de certaines munitions qui manquent. On voit Dassault qui ouvre sa première usine depuis 50 ans pour les Rafales. Est-ce que aujourd'hui la réindustrialisation du pays va passer par le réarmement et que dit la CGT sur ce dossier ? Est-ce que vous en avez parlé avec Sébastien Lecornu quand il était ministre des Armées ? Quelle est votre position là-dessus ? Parce qu'il y a des débats au sein de Renault, hein, d'ailleurs.
Alors, non, il n'avait jamais souhaité nous rencontrer avant. Ensuite, sur la situation du réarmement, Il y a un énorme paradoxe, c'est que soi-disant on s'arme pour affirmer notre souveraineté face aux États-Unis, à la Russie et aux autres, mais en fait on s'arme sur injonction des États-Unis et on met plus de moyens dans l'OTAN qui nous lâche et on va nourrir le complexe militaro-industriel américain.
Quand vous voyez des drones qui viennent dans l'Union européenne, quand on voit, nous, à quel point on est démunis, est-ce que vous dites pas oui, bah il faut se convertir et on va peut-être dire oui?
Non, mais la première des choses, c'est d'avoir une vraie souveraineté européenne. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on fait, puisque on ne sort pas du tout de l'OTAN. On est toujours dans le commandement intégré, alors que Donald Trump s'assoit sur les règles de fonctionnement de l'OTAN. La deuxième chose, c'est qu'il faut que l'Europe et la France portent une voix singulière au plan mondial en insistant sur le droit international, les valeurs démocratiques et l'enjeu du désarmement. Moi, je suis très choquée de voir que toute la grande tendance de désarmement mondial qui avait été enclenchée à partir de la guerre froide, maintenant c'est fini.
Alors,
on y tourne le dos et on
n'a
jamais autant augmenté les budgets d'armement qu'aujourd'hui.
Est-ce que sur Renault, vous dites non, il ne faut surtout pas qu'on commence à faire des chaînes de production de drones? Ou est-ce que vous dites oui, ça s'étudie quand même?
Ce que nous disons, c'est que la première responsabilité de Renault, c'est de produire des voitures en France.
D'accord.
Et que Renault ferme une à une toutes ses lignes de production en France, notamment la Zoé qui ne va plus sortir de Flins, pourtant c'est une voiture électrique.
Sur l'armement, est-ce que vous dites on est farouchement hostile ou vous dites ça se négocie aussi où ça se discute?
Mais on dit c'est plus compliqué que ça. Et donc nous, notre stratégie sur la question du militaire, c'est d'abord de dire il faut de la dualité. Nous ne voulons aucune industrie militaire qui ne fasse que du militaire. Il faut de la dualité civile et militaire pour ne pas dépendre exclusivement du militaire. D'accord. Et pour que les technologies utilisées pour le militaire puissent aller nourrir le civil. Ensuite, ce que nous disons, c'est qu'il faut un pôle public de la défense pour que ces dépenses, c'est essentiellement des dépenses publiques, elles arrêtent d'aller nourrir la spéculation et l'enrichissement des grands groupes d'armement comme Dassault, Thales, etc., qui ne se sont jamais aussi bien portés qu'aujourd'hui, mais cet argent, il va pas pour les salariés, il va dans les dividendes. Et puis, ce pôle public, il est très important pour avoir une vraie stratégie démocratique et pour pouvoir décider de quelles armes on produit, pourquoi
d'accord.
faire et
donc,
pour qui,
c'est
avec d'énormes enjeux déontologiques.
Non, oui, mais à condition que...
Et d'accord. surtout, le dernier point, c'est que aujourd'hui, ce qu'on nous explique, c'est qu'il faut de l'austérité pour nos services publics pour aller payer une augmentation des budgets de l'armement. Ça, c'est une spirale qui est mortifère pour notre société démocratique.
Françoise, une question, puis... Brigitte.
Une question sur la politique de l'offre. Depuis le tournant de la politique de l'offre que vous avez contesté, on voit quand même un mouvement de réindustrialisation très ténu. Hein. Très
là, ténu. C'est un moment de désindustrialisation
non, très
ténu.
Clair. Il y a eu des créations nettes en 2022, 2023, 2024, ça se tarie. Pourquoi est-ce que vous restez si obstinément hostile à cette politique de l'offre, alors qu'au fond, ça a quand même mis un terme à une lente désindustrialisation qui s'est poursuivie pendant des décennies?
Parce que je suis en désaccord total avec ce que vous dites. Et d'ailleurs, c'est pas moi, c'est la Cour
des
comptes.
Hein.
Prenez les chiffres de la Cour des comptes qui a sorti l'année dernière un excellent rapport sur les aides publiques aux entreprises et la politique de réindustrialisation et qui a montré que ça nous coûtait un pognon de dingue pour très peu de résultats et que le pays ne se réindustrialisait
très
pas du tout.
Très peu de résultats, mais il y en a quand même. Il y a eu 176 sites nouveaux en 2022, 189 oui. en 2023,
et maintenant,
89 en 84. Effectivement,
ces sites
ça se tarie.
Ferme. Ces sites
ça
sont en train tarie. De fermer. L'actualité
mais
du
mais
moment,
avant,
c'est notre industrie.
Mais avant,
part.
Il y avait eu un profond mouvement de désindustrialisation. Donc, comment est-ce que vous faites, vous, pour dire on va réindustrialiser, alors qu'il y a quand même quelques résultats là?
En fait, ces résultats, ils sont liés à la dynamique internationale qu'il y avait à l'époque. Et la France, d'ailleurs, est le pays qui a eu la croissance économique plutôt plus faible que ses voisins dans le même contexte. Nous, notre stratégie industrielle, c'est de dire il faut un vrai ministère de l'industrie qui s'émancipe des grands groupes et des multinationales et qui utilisent des leviers pour agir sur l'économie. Par exemple, j'étais la semaine dernière à Valeo, équipementier automobile. Valeo, 900 suppressions d'emplois en France. Qui est le premier actionnaire à Valeo? L'État français. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Valeo bénéficie chaque année de millions d'euros d'aides publiques, notamment sur le crédit impôt recherche, qui lui a permis de développer de la R&D pour avoir d'autres systèmes de boîtes de vitesse qui fabriquent des boîtes de vitesse. Le résultat, c'est quoi? C'est que ces boîtes de vitesse qu'il a développées, il les envoie en Turquie.
Mais Sophie Binet,
avec des aides publiques françaises.
C'est la concurrence chinoise aussi qui fait que nos entreprises, et notamment en automobile, ont beaucoup de mal à s'en sortir. Est-ce qu'on n'a pas perdu le combat de l'industrie automobile? On voit qu'il y a des emplois qui sont supprimés, des usines à l'arrêt, comme à Stellantis Poissy.
Mais en fait, c'est toute l'industrie, hein. C'est pas seulement l'industrie automobile. Et oui, il faut changer de stratégie face à la situation mondiale. La CGT, on a toujours été très opposés à la spécialisation productive, c'est-à-dire au fait de dire que, par exemple, en France, on ne pouvait plus être un pays de production qu'on faisait que de la recherche. On en voit le résultat aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut rentrer dans un nouveau monde. Il faut relocaliser l'industrie au plan national, au plan européen et donner à notre industrie comme mission de répondre aux besoins des populations françaises et européennes plutôt que d'espérer inonder les marchés mondiaux. Et donc, il faut protéger notre industrie avec des normes du commerce fondées sur le droit social, environnemental et fiscal pour que ces droits de douane soient modulés en fonction des normes sociales, environnementales et fiscales.
Sophie Binet, 30 secondes pour terminer cette émission de Vrai ou Faux, vous êtes prête. Avec Marie-Lise Léon, la dirigeante de la CFDT, vous vous appelez presque tous les jours. Vrai ou faux?
Vrai.
Depuis votre arrivée à la tête du syndicat, la CGT dialogue beaucoup moins avec Greenpeace. Vrai ou faux?
Faux.
Jean Castex, à la tête de la SNCF, vous aviez fait savoir en haut lieu tout le bien que vous pensez de cette nomination. Vrai ou faux?
Faux.
Comme votre collègue de la CFE-CGC, vous trouvez Sébastien Lecornu d'un niveau supérieur à François Bayrou. Vrai ou faux?
Vrai.
La CGT n'est pas machiste, mais il y a encore trop de machos à la CGT. La phrase de Philippe Martinez, votre prédécesseur, reste vraie ou fausse?
Fausse.
Sophie Binet, merci d'avoir répondu aux questions de questions politiques. Je souhaite à tous les auditeurs, les auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices un excellent week-end. À la semaine prochaine.